Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Fabrice.
Olivier Coudron, chaque mercredi sur Nutri Radio. Quelle chance on a de vous avoir. Et j'espère que les auditeurs en ont bien conscience. Merci à vous d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à écouter. Merci aussi, s'il vous plaît, de vous abonner au podcast, si vous y pensez. C'est vraiment très sympa, c'est important pour nous, parce que ça nous permet d'être mieux référencés, ça nous donne plus de force aussi pour vous proposer encore plus de contenu. Donc pensez à vous abonner, pensez à commenter, vraiment un petit commentaire, un truc, j'en sais rien, moi, quelque chose. On ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande pas de temps. C'est un signe de temps, mais vous nous en donnez, mais en même temps, en podcast, vous pouvez faire autre chose. Mais voilà, si vous pouvez vous abonner au podcast, et commenter, merci beaucoup. Et merci à notre partenaire, évidemment, sans qui on ne pourrait pas vous proposer ces contenus gratuits. Eh bien, Laboratoire Lepivitz, une marque engagée de compléments alimentaires, c'est du Clean Label. On parle souvent de supplémentation et vous êtes nombreux à nous dire que vous ne savez pas vraiment vers quelle marque vous tournez, quels produits, il y en a beaucoup. Eh bien, par exemple, Lepivitz, ça fait partie des très bons laboratoires donc engagés et familial qui plus est. Bon, alors, la semaine dernière, quand même, très positif, très optimiste d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas de vous, parce que quand on vous écoute, le timbre de votre voix, la chaleur qui s'en dégage, on est rassuré. La semaine dernière, vous nous avez encore plus rassuré sur des éléments très anxiogènes qui composent notre quotidien aujourd'hui sur l'actualité santé, les oxalates, le cadmium. Alors oui, certes, il y en a, on ne fait pas la politique de l'autruche, mais en revanche, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour éviter leur toxicité, et notamment les aliments que nous allons mettre dans notre assiette, comment on va constituer notre assiette, comment on va les nutriments qu'on va aussi associer à d'autres, hein, pour faire en sorte que ça passe pas, ça ne passe pas. L'équilibre, c'est important. Vous avez parlé notamment du zinc, du calcium la semaine dernière. On va pas refaire cette émission qui était passionnante. Vous pouvez la réécouter en podcast. On s'est dit qu'on va poursuivre la conversation parce que on a vu les oxalates la semaine dernière, on a vu le cadmium, mais on n'a pas eu le temps de voir le nitrite, enfin les nitrites. Vous voulez nous en parler?
Oui, tout à fait, tout à fait. Les nitrites, ça fait partie des grandes peurs populaires parce qu'on va les trouver dans les charcuteries, dans les jambons, les lardons, les saucissons, en tant que produits délicieux qu'on trouve dans les cuisines de terroir. Alors ça contient du nitrite de sodium. Et ça peut, je dis bien ça peut, se transformer, et c'est cette transformation qui peut être problématique, ça peut se transformer dans l'estomac, avec un pH très acide, l'acide chlorhydrique de l'estomac, en formes qui sont, on appelle des nitrosamines, des formes N-nitrosamines, et cette nitrosation, c'est un nom un peu barbare, c'est-à-dire la transformation des nitrites dans une molécule qui est associée, collée à des amines, des acides aminés, donc des petites lettres qui constituent les protéines de nos aliments, eh bien ces nitrosamines ou ces nitrosamides, elles sont cancérogènes. C'est classé comme cancérogène de classe 1 par le CIRC, hein, donc le Collège international de recherche sur le cancer. Et c'est évidemment quelque chose qui peut inquiéter. J'imagine quelqu'un qui a des risques de cancérogénèse ou qui fait simplement attention à sa nutri-prévention et puis qui doit acheter des petits lardons, du jambon, et il regarde les étiquettes, et c'est une bonne chose, et il voit nitrite de sodium, et voilà, il se pose des questions et il a raison. Mais j'ai une très bonne nouvelle, c'est que l'on peut vraiment réduire l'impact, le risque lié à cette nitrosation gastrique.
Nitrosation, comment vous... Oh là là, il y a des mots, j'arrive pas à prononcer. C'est
oui, c'est barbare. Nitrosation, c'est-à-dire le fait que ces petites molécules qui sont innocentes, hein, je dis bien innocentes au départ, peuvent devenir toxiques. Alors déjà, peut-être précisons une chose. Il faut bien distinguer plusieurs molécules qui ont de l'azote. Alors, on parle de molécules qui ont de l'azote, c'est pour ça qu'on parle de N. N, c'est le symbole chimique de l'azote. Il y a les nitrates. Hein, on a tous entendu parler des nitrates. Les nitrates, il y en a plein dans les légumes. Il y en a aussi dans des eaux de boisson. Et ces nitrates, en tant que tels, ils sont plutôt favorables. Hein. C'est une bonne source de monoxyde d'azote. Hein. Désolé pour ces noms chimiques, mais les nitrates sont des molécules azotées qui peuvent se transformer dans l'organisme en monoxyde d'azote, le symbole NO. Et ça, on l'aime bien parce que c'est un vasodilatateur, ça fait baisser la pression artérielle, ça améliore l'oxygénation tissulaire. Les sportifs, par exemple, dans la recherche de performance et d'endurance, vont parfois consommer des jus de betterave, un grand verre de jus de betterave. Pourquoi betterave? Parce que c'est bourré de nitrates et ces nitrates vont se transformer dans l'organisme en monoxyde d'azote. Et ce monoxyde d'azote, il est bon, il est favorable, il est utile, il est intéressant. On le recherche. Donc, première molécule, ce sont les nitrates. Et ça explique ce qu'on appelle le paradoxe des légumes. C'est que quand on consomme beaucoup de légumes, la betterave ou beaucoup d'autres légumes, des légumes à feuilles, eh bien, malgré le fait qu'il y ait, ce soit la principale source de nitrates, on n'observe pas d'effets cancérogènes sur le rein, sur les côlons, etc., sur le glioblastome, comme on observe avec les nitrites. C'est la même famille, mais ils ne se comportent pas de la même façon. Ça, c'est déjà intéressant de le signaler.
Ah oui, ça c'est merci de la précision, parce qu'il y a beaucoup de confusion en général. Moi, j'aime bien ce mot « nitrosation », ça me fait rappeler un dessin animé Goldorak. « Nitrosation », ça n'a rien à voir.
Oui, oui, il parlait de ça. Hein.
C'était comme ça, d'ailleurs.
Quelle époque. Ouais. Alors, donc, on a des nitrates présents surtout dans les eaux de boisson, présents dans les légumes, et ça, n'ayez pas peur des nitrates, c'est plutôt intéressant. Mais ces nitrates, lorsqu'on va les manger, les broyer, ils vont être transformés d'abord par les bactéries de notre microbiote buccal, le microbiote de la bouche, et une grande partie va se transformer en nitrite. Ah, voilà. Et là, c'est là qu'on a un peu peur, hein, généralement. Les nitrites, on les considérait comme des aliments cancérogènes. Pourquoi? Parce que ces nitrites, ils arrivent dans l'estomac. Et dans l'estomac, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit ils vont être neutralisés, et on va voir avec quoi et comment, évidemment, soit ils ne vont pas être neutralisés et ils vont subir cette nitrosation. Eh oui. Et là, ils vont se transformer. S'il y a des protéines, s'il y a des acides aminés, comme dans la charcuterie, par exemple, eh bien, ils vont se transformer en dérivés nitrosés qui sont très réactifs et cancérogènes en cas de consommation régulière. Donc, ce qu'on attend depuis quelques instants, je tourne autour du pot, mais comment neutraliser la transformation des nitrites en nitrosamines et favoriser le monoxyde d'azote? Oui, j'attends.
Oui, on va marquer une petite pause, parce que là maintenant vous avez fait un teasing de fou, et je vais renoter la question, parce qu'il y a tellement de mots compliqués. Comment éliminer, répétez ce que vous avez dit, mon cher Olivier.
Voilà, comment neutraliser la transformation des nitrites en nitrosamines? C'est voilà. Ce que vous saurez après une page de publicité, c'est
ça ? Exactement. Allez, on revient juste après ceci. Non. Merci Olivier, restez avec nous.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clinabel aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Olivier Coudron sur Nutri Radio, on parle des nitrites aujourd'hui. Et alors la question, comment neutraliser la transformation? Et j'ai oublié le reste.
La transformation des nitrites, qui sont nitrites. Pas dangereux en tant que tels.
En nitrosamine.
Voilà, en nitrosamine. Alors, allez, je vais vous livrer. Il y a deux éléments. La vitamine C, et les polyphénols dans la matrice alimentaire. Voilà, ça c'est la clé. Il y a beaucoup de travaux et de plus en plus de travaux, encore une publication très intéressante la semaine dernière qui confirme que ça fonctionne. Si l'on consomme en même temps que nos charcuteries de la vitamine C dans des aliments, et j'insiste parce que c'est pas la même chose dans les compléments alimentaires, ça marche pas de la même façon, mais la vitamine C, l'ascorbate, dans la matrice alimentaire va empêcher, va réduire ces nitrites, et ils vont pas se transformer en nitrosamine, mais ils vont aller vers la voie du monoxyde d'azote. Vous savez, cette voie que j'évoquais tout à l'heure, qui est très intéressante et plutôt protectrice. Donc, manger des raclettes, manger de la choucroute, et vers la fin du repas ou au cours du repas, consommer des agrumes, consommer un kiwi, consommer des brocolis, consommer des poivrons qui sont très riches en vitamine C, eh bien, ça va neutraliser et empêcher la formation de ces nitrosamines. Donc, il y a vraiment des éléments très intéressants. Et le deuxième élément synergique qui est aujourd'hui très, très bien validé par les études scientifiques, ce sont les polyphénols. Alors, par exemple, les polyphénols qu'on va retrouver dans les agrumes, hein, la naringine, la rutine qu'on va trouver dans des fruits rouges, l'acide chlorogénique qu'on va trouver aussi dans le café, par exemple. Eh bien, beaucoup de ces polyphénols vont avoir un effet synergique, vont amplifier encore cette protection. Et ce sont des effets qui se cumulent à l'apport de la vitamine C. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, dans beaucoup de fruits, beaucoup de légumes frais, hein, non cuits, on va retrouver à la fois de la vitamine C et des polyphénols. Donc, on a des solutions vraiment très simples pour ne plus avoir peur des nitrites. Oui, vous pouvez acheter de temps en temps des petits lardons, vous pouvez acheter des jambons, vous pouvez acheter des saucisses. Et s'il y a des fabricants sans nitrites, c'est bien. Donc, notamment des filières bio qui le font de plus en plus aujourd'hui, sans nitrites ajoutés, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce qu'il peut y avoir des nitrates. Et donc, utilisez cette astuce, manger des fruits et légumes riches en vitamine C et en polyphénol au cours de ce repas, et ça va réduire le risque chimique.
Ah ben ça, c'est encore une excellente information. Petite question, on a parlé de cette alimentation hein, qui peut nous aider, mais est-ce que l'alimentation est suffisante pour nous apporter les apports nécessaires, ou est-ce que il faut aborder le thème de la complémentation?
Alors, très important, ici dans ce que j'évoque, c'est vraiment l'alimentation avec sa matrice alimentaire qui apportera les éléments utiles et à la bonne dose. Alors, Les effets des compléments alimentaires, de la vitamine C, par exemple, sous forme de comprimé pris pour neutraliser les nitrites, a été fait, c'est bien publié, mais ça a un effet qui varie en fonction de la dose. C'est-à-dire, si on apporte des petites doses de vitamine C, un comprimé à 100 mg de vitamine C au cours de notre petit déjeuner ou de notre choucroute, cela va neutraliser la formation des nitrosamines. Si l'on apporte trop de vitamine C, donc plus de 500 mg par exemple, ou 1000 mg, on observe un effet inverse. Donc, c'est pas si simple.
C'est-à-dire
pour ça que,
un effet inverse.
C'est-à-dire qu'on peut avoir une augmentation de l'oxydation et une augmentation de la nitrosation. Donc,
bon.
C'est un effet en U. Mais oui, comme dans beaucoup, beaucoup de réactions biochimiques, on a des effets, des courbes en U. C'est-à-dire que trop peu d'un micronutriment, c'est très mauvais, c'est ce qui est en général le support de la supplémentation, mais un excès, une dose, on va dire, pharmacologique, une dose trop élevée, médicamenteuse, si vous voulez, eh bien, peut avoir des effets délétères. On le voit presque avec tout. Je viens de vous parler de la vitamine C. La vitamine C, c'est très, très bien à 100, 200 mg. Jusqu'à 500 mg chez certaines personnes, comme les pratiquants de sport, par exemple, ou les fumeurs. Mais au-delà de ça, 1000 mg ou plus, c'est potentiellement délétère. C'est pro-oxydant, c'est plus un antioxydant. Ah. Donc, eh oui.
Je suis choqué.
Et donc, on parlait de la semaine dernière, on parlait des oxalates. Mmh. Eh bien, là aussi, plus d'un gramme de vitamine C, c'est transformé en oxalate endogène. Donc, c'est la première source d'oxalate excessif, c'est ceux qui prennent plus d'un gramme de vitamine C tous les jours. Donc, ni trop ni trop peu, la physiologie, le bon sens, la naturalité. Et pour répondre plus clairement à votre question, bah oui, certaines situations nécessitent des complémentations micronutritionnelles, hein, parce qu'il y a des manques, il y a des déficits. On est plutôt vers la courbe d'insuffisance, vers la partie gauche de la courbe en U. Et là, par exemple, quand on manque de fer, quand on manque de zinc, quand on manque de calcium, je retire ce que je dis sur le calcium, parce que peut-être le seul complément alimentaire pour lequel il y a très très peu d'indications. Mais le fer, le zinc, l'iode, les folates, c'est tellement important, tellement tellement important que si l'on n'en a pas assez dans l'assiette, pour plein de raisons, c'est pertinent, c'est plus que pertinent, c'est indispensable de prendre une complémentation avec un conseil d'un professionnel bien formé, un professionnel de soins, de santé, pas forcément uniquement formé au CIN, même si quand même on est... on a beaucoup de... Désolé, ça m'a échappé.
Mais vous avez raison, le CIN...
Mais il faut avoir des formations...
Mais alors attendez,
voilà. Oui, je vous écoute.
Mon cher Olivier.
Parce que je me tais, je vous écoute.
Ah ben non. Vous savez, c'est votre émission, donc j'essaie d'intervenir parce que je me dis peut-être que les auditeurs sont comme moi sur certains sujets en termes de d'alerte, parce que ça résonne en nous. Par exemple, sur la vitamine C, dites plus de 1000 mg, c'est pour les oxalates, par exemple. Bon, voilà, attention, danger. Mais moi, je connais énormément de compléments alimentaires. Ils sont bien dosés en vitamine C. Au contraire, ils revendiquent 1000 mg, par exemple, sur un comprimé. Un comprimé contient 1000 mg. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, la bonne question, c'est pourquoi prendre 10 fois les valeurs nutritionnelles recommandées en vitamine C ? Quel est l'objectif ? Quelle est l'intention ? Qu'est-ce qu'on vise ? Qu'est-ce qu'on cible ? C'est ça qu'il faut poser aux personnes qui font de la formulation. Quelle est votre intention derrière cela? Quel est le niveau de preuve qu'en apportant 1000 ou 1500 mg, vous allez faire mieux? Ça nous renvoie à des vieilles histoires de Linus Pauling aux États-Unis. Linus Pauling, c'était un double prix Nobel, hein, donc quelqu'un qui a une grande crédibilité. Et il a beaucoup travaillé, vous le savez, sur la vitamine C. Alors lui, c'était... dans l'approche américaine, hein, nord-américaine, hein, plus on en prend, mieux c'est. Hein. On voit aujourd'hui un petit peu les dérives. Pauling était convaincu de bonne foi que la vitamine C était tellement importante que lui, il consommait des grammes de vitamine C. Or, aujourd'hui, on est revenu de cette vision un petit peu, il y a 50 ans quand même, hein, depuis on a fait des travaux, et on s'est rendu compte que la vitamine C avait en effet des propriétés très particulières, antioxydants, cofacteurs enzymatiques, détoxifiantes, synthèse de collagène, etc. Mais son action optimale se faisait dans une fourchette proche de 200 mg d'apport sur 24 heures. Au-delà, elle est éliminée, elle est urinée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se précipite et que se transforme en oxalate pour être éliminée. Et donc, prendre plus de 200 mg ne permet pas d'avoir des effets supérieurs à ceux qu'on obtient avec 200 mg.
Sauf peut-être pour la vitamine C liposomale.
Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est la biodisponibilité des molécules. C'est pour certaines molécules, que ce soit le fer, la vitamine C ou des polyphénols, on cherche à améliorer la biodisponibilité sous l'angle de l'absorption. Donc il y a des vitamines, il y a des micronutriments qui sont très bien absorbé. Je pense au curcuma, enfin à la curcumine pour être plus précis, est très 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 mal absorbé, 1%, 2%. Et donc là, les formulateurs vont développer des formes qui vont permettre une meilleure absorption via l'intestin. Ça peut être multiplié par 30 ou 40 avec les formes liposomales, et avec la piperine aussi, on va avoir des synergies, on va augmenter la demi-vie plasmatique du curcuma. Donc, on a des solutions pour, en effet, augmenter cette biodisponibilité. Mais c'est intéressant pour des molécules pour lesquelles l'absorption est difficile. D'accord ? S'il n'y a pas de difficulté d'absorption particulière, c'est pas un enjeu majeur. La vitamine C est-elle très difficile à être absorbée ? La réponse, elle est non.
Mais alors, par exemple,
c'est une vitamine hydrosoluble. Ça s'absorbe bien. Il n'y a pas de malabsorption de la vitamine C.
D'accord. Mais par exemple, vous avez dit à 200 mg, le corps, il absorbait 100%, c'est ça, vous avez dit. Et au-delà, il y en a moins. Donc, C'est vrai que dans l'esprit des consommateurs, on pourrait dire plus c'est dosé et plus c'est puissant. Et là,
ah ben non.
Là, non.
Ah ben non. Ça, c'est vraiment, il faut sortir de ce schéma qui est très manichéen. La micronutrition, la médecine fonctionnelle, c'est une médecine en subtilité, en synergie, en naturalité. Tout est interdépendant. Si on prend trop, par exemple, l'EFSA a revu cette année les apports maximum autorisés en zinc et en fer. Pourquoi? Parce que quand on en prend trop, eh bien, ça empêche d'autres micronutriments d'être absorbés. Nous parlions du cadmium récemment, la semaine dernière. Lorsqu'on prend beaucoup de zinc, on va empêcher l'absorption des autres minéraux qui passent par les mêmes portes. Le cadmium, et donc ça, c'est évidemment très intéressant, mais le cuivre, le fer. Donc, quand on prend trop de micronutriments, attention, on déplace des équilibres. La nature est bien faite. L'alimentation à laquelle nous sommes programmés depuis plus de 100 000 ans, elle est bien faite, si on mange bien. Et donc, on a des équilibres entre les micronutriments. Alors, vouloir faire de la pharmacologie, vouloir prendre des nutriments comme des médicaments, c'est pas la voie de la médecine nutritionnelle. C'est une voie médicamenteuse, c'est une voie pharmacologique. Ça peut se justifier dans certaines situations très, très particulières, médicales. Mais là, on ne parle pas de médecine, on ne parle pas de maladie. Là, on parle de prévention, de nutri-prévention.
Est-ce que, parce qu'on parle, on dit souvent que le bol aujourd'hui nutritionnel, enfin, qu'il y a une dénutrition, parce que les aliments sont moins riches justement en nutriments, d'où l'utilité d'une complémentation, même dans un rôle de prévention. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, finalement? Vous pensez qu'aujourd'hui, les sols et les nutriments sont aussi riches qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans?
Pas du tout. Pas du tout. C'est, je dirais même le contraire. Il y a une pauvreté des apports micronutritionnels, notamment parce que les sols sont pauvres, c'est une chose, mais aussi parce qu'on consomme aujourd'hui en France près de la moitié d'aliments ultra transformés. Et ces aliments ultra transformés, la matrice, elle a été éclatée, transformée, et donc elle n'apporte plus les mêmes micronutriments avec la même biodisponibilité. Beaucoup de personnes prennent également des médicaments au long cours qui entraînent des surconsommations ou des malabsorptions de micronutriments. Voilà, il y a plein de situations qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui, on manque réellement de micronutriments. Je suis tout à fait sur cette longueur d'onde. Mais on ne prend pas n'importe quoi avec n'importe quelle dose. Il faut plutôt revenir à des doses nutritionnelles pour une optique de prévention.
Eh oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Ensuite, évidemment, il y a des nuances parce que savoir quelle est la bonne dose, ben, les travaux s'affinent. Par exemple, la vitamine D. Moi, je me rappelle, j'étais parmi les jeunes médecins avant les années 2005 où le statut en vitamine D, l'apport de la vitamine D était très, très bas. 10 nanogrammes par millilitre, c'était les valeurs optimales. On était tous contents parce qu'on n'avait pas de rachitisme. Mmh. Et puis, les travaux de Garabédian en 2005 ont bouleversé la vision des choses. On s'est dit, la vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Elle a plein d'actions. Et c'est pas 10 nanogrammes, il va falloir avoir dans le sang au moins 30 nanogrammes. Et aujourd'hui, la science a même évolué. On dit que pour certains effets protecteurs, on serait plus proche de 50 nanogrammes par millilitre. Donc, on a multiplié de 500 fois ce qu'on croyait il y a une vingtaine d'années seulement. Donc, il y a des manques de vitamine D. Il y a des manques de magnésium à 70% de la population. Et ça, c'est extrêmement important pour cette fameuse vitamine D, entre autres. Il y a des manques de fer pour les femmes et les enfants. Il y a des manques d'oméga-3. C'est quasiment ubiquitaire, ce manque d'oméga-3. Donc, bien sûr que l'alimentation peut améliorer et il faut commencer par l'assiette. Mais il y a beaucoup de situations. La semaine dernière, nous parlions d'une auditrice qui était enceinte, Aude, ou qui voulait être enceinte. Eh bien, c'est certain que en préconception, durant la grossesse, lorsqu'on a certaines affections, lorsqu'on est un sportif de haut niveau, là, on n'a pas le choix. Il faut absolument prendre des micronutriments complémentaires parce que l'alimentation seule ne garantit pas cette couverture optimale.
C'est aussi valable pour les personnes plus âgé, mais vous l'avez dit de toute façon.
Alors oui, 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 au-delà de 60 ans, les besoins nutritionnels en protéines, en acides gras et en micronutriments sont bien majorés. Il faut absolument en prendre davantage. C'est des choses qui sont un peu connues, hein, qui sont dans les recommandations de politique nutritionnelle, mais entre ce qu'on sait dans les livres et ce qu'on applique dans la vie de tous les jours, il y a un grand gap comme ça. il y a beaucoup, vous le savez, de personnes de plus de 60 ans qui mangent pas assez de protéines, qui ne boivent pas assez, qui mangent pas assez de fibres, qui mangent pas assez de zinc, de vitamine D. Voilà. C'est fréquent et c'est dommage.
En tout cas, c'est très intéressant. Tous ces éclairages, vraiment, là, en ce qui concerne en particulier la vitamine C, ce que vous nous avez dit, si vous voulez réagir, si vous êtes fabricant, consommateur, médecin, si vous voulez apporter votre pierre à cette conversation, vous n'hésitez pas, rendez-vous sur le site nutriradio.fr. Dans le formulaire de contact, vous l'emplissez, vous mettez Neuronutrition ou Olivier Coudron, vous précisez dans l'objet, c'est important, parce que sinon on ne s'y retrouve pas, mais j'aime bien messieurs. Et donc, merci beaucoup de le faire. Vous avez envie de rajouter quelque chose, Olivier? Je vous sens chaud bouillant.
Oui, je rajouterais, puisque là, vous lancez une bouteille à la mer en disant, réagissez, bien sûr. Alors, oui, les doses physiologiques, c'est extrêmement important. Les formes naturelles dans la matrice, c'est important. Les formes chimiques des compléments alimentaires, ça fait aussi la différence entre un acide folique et un méthylfolate. Ça n'est pas la même chose pour tout le monde. Et puis, il y a une autre notion qui est la notion de synergie. Lorsqu'on va donner des fortes doses de vitamine C, on a un raisonnement, encore une fois, analytique, un raisonnement avec des œillères. Hein. On ne regarde que l'action de cette molécule-là. Mais dans l'organisme, ça fonctionne pas tout seul. C'est interdépendant. Et dans une gélule ou dans un comprimé, c'est aussi interdépendant. La vitamine C, par exemple, elle sera en synergie avec la vitamine E, avec la N-acétylcystéine, avec le glutathion. Dans ses fonctions antioxydantes. Et donc, c'est plutôt rechercher des formes les plus naturelles et les mieux assimilables, tout en restant dans les valeurs physiologiques pour éviter les déplacements d'équilibre, et en travaillant plutôt sur des formulations, des synergies, qu'une vision, on va dire, purement chimique, moléculaire, comme faisait Linus Pauling, que je respecte profondément. Mais c'était il y a 50 ans.
Voilà, il disait n'importe quoi au final. Merci beaucoup de le préciser, mon cher Olivier.
Je l'ai dit ça avec vous. Je ne pense pas. Je pense que c'était un homme brillant, mais qui a quand même été à l'origine d'un livre incroyable sur la vitamine C guérit le rhume, hein, qui a été l'alimentation d'un mythe sur la vitamine C et le rhume pendant des décennies. Hein. Comme quoi, attention, l'autorité scientifique, c'est pas toujours. Il faut toujours croiser les informations et avoir du bon sens, beaucoup de bon sens.
Et oui, même les meilleurs commettent des erreurs, de toute façon, c'est comme ça. Et puis après, le temps, la science avance.
Bon, absolument.
Merci beaucoup. Et donc, vous êtes vous plutôt partisan donc des bonnes synergies en complément alimentaire, donc des complexes plutôt que des unitaires, en gros aussi.
Je n'ai pas dit ça non plus, Fabrice.
Bon, allez, j'ai rien compris.
Non, mais ça dépend. Ça dépend. On va parfois. Tout à l'heure, je parlais du. Je ne veux pas donner des recettes, je n'aime pas ça. Mais voilà, dans le syndrome prémenstruel, par exemple, qui touche beaucoup de femmes et avec beaucoup d'inconfort, il faut savoir qu'il y a certains compléments alimentaires qui sont efficaces dans la littérature scientifique, qui marchent très bien. Pas dans tous les cas, ce que je vais dire là ne concerne pas tous les syndromes prémenstruels, mais dès qu'on a des douleurs abdominales, des douleurs lombaires, des spasmes, des migraines, eh bien le calcium, des comprimés de calcium à forte dose, là on est à 1000 mg par jour, 2 fois 500 mg, eh bien ça fonctionne souvent très bien. Vous voyez là, on est à des fortes doses et simplement du calcium, on va pas forcément donner et du calcium, et de la B6, et du magnésium, même si c'est intéressant, ça peut être aussi une autre stratégie.
T'es dans la nuance, et c'est du cas par cas.
Voilà.
Merci
c'est
beaucoup.
C'est pas blanc ou noir. Voilà.
Merci, mon cher Olivier. On va se retrouver la semaine prochaine avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie. Vous voyez, les émissions, c'est génial parce que on fait pas forcément ce qu'on avait prévu au départ, mais le déroulé est tellement passionnant qu'on prend le temps d'en faire d'autres et d'en faire autant qu'il faudra de toute manière. Merci beaucoup. L'émission est à retrouver en podcast tout de suite. Là, si vous y allez sur nutriradio.fr, on l'a déjà mis en podcast et sur toutes les plateformes. Pensez à bien partager aussi, c'est très important pour nous. Merci. Au revoir, Olivier.
Au revoir.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.